Chapitre 10. Le halo des flammes qui filtrait à travers les vitres en verre trempé les baignait tous les trois d'une lueur orange. Cela faisait une heure qu'ils se tenaient devant les deux fours, à regarder le feu se délecter des corps de Getty Esplodi. Le bras passé autour de Cassidy, Dante serrait la jeune femme contre lui. Roman songea que la tendresse de ce geste était le signe d'une intimité déjà bien établie. Il lui avait semblé que Getty avait hurlé pendant des heures, avant de tomber enfin dans un silence bienvenu. Dante avait eu beau couvrir les oreilles de Cassidy, celle-ci n'avait pas arrêté de pleurer, de gros sanglots qui avaient résonné dans la pièce, tels les cris d'une banshee. Roman songea que la chaleur avait dû faire fondre l'adhésif qui masquait la bouche de Getty, mais il ne comprenait pas comment le jeune homme avait pu rester en vie aussi longtemps, alors qu'il aurait dû manquer d'air très rapidement. Peut-être que la perception du temps de Roman était faussée, et que cela n'avait duré que quelques instants. En tout cas, il savait que ses cris continueraient de retentir dans ses cauchemars. Au bout d'une heure et demie, Roman augmenta la température au-delà de la limite imposée par l'État, afin d'accélérer le processus. Aussitôt, les deux fours se mirent à rugir comme des démons, montant la garde à la porte de l'enfer. « Un jour, nous aussi, nous atterrirons en enfer, » se dit-il. « Nous aussi, nous franchirons cette porte. » Devant lui s'ouvrait une voie rédemptrice qui aurait pu lui permettre d'apaiser son sentiment de culpabilité. Ils avaient sauvé Cassidy, et ils s'étaient sauvés eux-mêmes, même si ce n'était que temporaire. Seulement, si Roman s'autorisait à suivre cette voie, alors les horreurs de cette nuit viendraient gonfler la longue liste d'actes effroyables qu'il avait commis au nom de la bonne cause et enfouis au plus profond de son cœur. Or, Roman savait que cette crypte commençait à manquer de place.
« Getty s'est pas fait piquer la cam, »
avoua Cassidy à voix basse. « Comment ?» fit Dante.
« Il s'est pas fait agresser par des étudiants. L'ecstasy, il l'a coupé, et il l'aura revendu pour le double de ce que vous l'aviez payé. C'est juste qu'il voulait pas partager. »
« Quelle surprise !» songea Roman, qui, l'espace d'un instant, ressentit un profond soulagement. Avec un peu de chance, cette révélation aiderait Dante à surmonter le traumatisme de cette nuit. En tout cas, à présent que Cassidy avait parlé, l'état de paralysie collective dans lequel il se trouvait depuis que Roman avait verrouillé la porte du deuxième four s'était dissipé. « Cassidy, il est temps que tu t'en ailles », annonça Roman.
« Rome, tu te rends compte de ce qu'elle vient de vivre ?» objecta Dante. « De ce qu'on vient de vivre ?
Ça peut peut-être attendre un peu, non ?»«
Elle doit disparaître », insista Roman, les poings serrés. « On a du nettoyage à faire. Et elle, il faut qu'elle prenne la route et qu'elle parte le plus loin possible. Et vite. »«
Comment ça que je parte ?»
répéta Cassidy, les yeux écarquillés. Roman eut un pincement au cœur devant tant de naïveté. Cette pauvre fille ne comprenait pas encore ce qui lui arrivait. Une biche happée par une tornade. Elle n'avait rien demandé. Mais désormais, ils avaient tous les trois les pieds pris dans le même bloc de ciment qui menaçait de les précipiter vers les abysses.
« Cassidy, il te croit morte, » expliqua Roman.
« Sans Dante, tu le saurais. Alors il faut que tu quittes la ville. Dès ce soir. Sinon, ils vont tous nous tuer. Tu dois disparaître définitivement. »
Il avait parlé d'une voix douce, mais ferme. Il fallait absolument que Cassidy prenne conscience de la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvaient tous à présent.
« Mais... et ma mère ? Elle va s'inquiéter ? Je peux pas partir comme ça ?»
plaida la jeune femme.
« Rome, laisse-la au moins prévenir sa mère, » renchérit Dante. « Pour qu'il débarque chez elle et qu'il lui demande si elle a des nouvelles de sa fille. Comment ça va se passer, à ton avis ? T'as déjà oublié ce qui est arrivé à ton doigt ?»
Roman posa les deux mains sur les épaules tremblantes de Cassidy.
« Est-ce que tu m'aurais jeté dans le four, moi aussi ?»
murmura-t-elle.
« Non, »
répondit Roman, et dans son âme, il se pensait sincère.
« Mais il faut que tu partes.
Je vais te donner de l'argent. J'ai récupéré les clés de Splody. Tu vas prendre sa voiture. Dans un premier temps, tu peux te servir de ton téléphone. Mais tu vas devoir t'en procurer un autre le plus tôt possible. » « Surtout, tu ne contactes personne, même pas ta mère. Tu n'utilises pas ta carte bancaire. Trouve-toi un petit boulot de serveuse ou quelque chose comme ça. Fais-toi payer au black. Je vais te donner mon numéro. Dès que t'auras récupéré un portable, tu m'appelles et je t'aiderai à obtenir une nouvelle identité. Mais ça, ce sera dans un second temps. Pour l'instant, le plus urgent, c'est que tu files. Cassidy chercha Dante du regard.
Dante, qu'est-ce que... Il faut vraiment que je parte ?
Dante se tourna vers son frère. Après une rapide conversation silencieuse, il s'approcha de Cassidy et la serra contre lui.
« Il a raison »,
lui murmura-t-il à l'oreille en fixant Roman droit dans les yeux.
« S'il découvre que t'es encore en vie, ils nous tueront tous les trois. Alors quitte la ville. Quand les choses se seront tassées et que tu pourras revenir, je te préviendrai, d'accord ?»
Roman fronça les sourcils lorsque Dante évoqua un possible retour de Cassidy, mais il décida de ne pas le contredire. Cette discussion aurait lieu plus tard, en tête-à-tête, s'il ne se faisait pas massacrer d'ici là. Ce qui ne manquerait pas d'arriver si un membre des Black Baron Boys apercevait Cassidy au volant de la voiture de Splody.
« D'accord, »
céda Cassidy.
« Je te fais confiance. »
Ils l'accompagnèrent jusqu'à la voiture. Roman lui donna $1,000 qu'il avait récupéré dans le bureau, dans la boîte où son père conservait toujours un peu d'argent liquide. Il songea qu'il devrait remplacer les billets avant que Nevea se rende compte de leur disparition. Une fois Cassidy au volant, Dante referma sa portière. La jeune femme tourna la clé dans le contact. Instantanément, des néons bleus s'allumèrent sous le bas de caisse. Cassidy baissa sa vitre et Dante s'accroupit pour se mettre à sa hauteur.
« Tu pars le plus loin possible, d'accord ?» dit-il. « Ensuite, dès que t'auras récupéré un portable, tu m'appelles pour me prévenir que tout va bien. »
Il glissa la tête par l'ouverture et déposa un baiser sur le front de Cassidy.
« Ne raconte à personne ce qui s'est passé ici, » ajouta Roman. « Surtout, tu te fais discrète. Ça va aller. Bientôt, on te fera parvenir plus d'argent. »
Il songea à l'idée de la relativité. Au travail, il brassait des millions de dollars, qu'il transférait quotidiennement d'un compte à un autre. Dissimulant, combinant, divisant plus d'argent que le commun des mortels en gagnait en toute une vie. Et à présent, sa survie dépendait d'une jeune femme naïve et des quelques centaines de dollars qu'il allait lui fournir afin qu'elle se trouve un point de chute pour les prochains mois.
« À qui vous voulez que je parle, de toute façon ?»
ronchonna Cassidy. « Je te conseille de prendre l'autoroute 95 en direction de Washington », indiqua Roman. « Il y a plein d'hôtels pas très chers à Chinatown. Je te recontacte bientôt, d'accord ?» Cassidy acquiesça. Dante l'embrassa à nouveau sur le front, puis la jeune femme remonta sa vitre. Une rapide marche arrière, et la Honda quitta le parking pour s'engager dans la rue. Roman et Dante virent les feux stop clignoter brièvement à l'approche de l'intersection, puis Cassidy tourna à droite pour sortir de la zone artisanale et se diriger vers la bretelle d'accès à l'autoroute. Dans le silence de la nuit, un coup de vent fit volter quelques détritus. Papier gras, vieux prospectus et emballages divers et variés se mirent à danser au clair de lune pour un public de 2 personnes.
« Tu penses qu'elle va tenir sa langue ?» demanda Roman.
« Elle l'a dit elle-même. À qui tu veux qu'elle parle ?»
Et tu crois pas qu'elle va essayer de revenir?
Elle a plus que sa mère ici, maintenant que Getty n'est plus là.
Retournons à l'intérieur, soupira Roman. On a un boulot à finir.
Ils versèrent les cendres des 2 collecteurs dans un seul sac, qu'ils dissimulèrent dans la poubelle réservée aux déchets dangereux au fond de la salle d'incinération. Puis, armés d'un seau et de 2 balais à franges, ils entreprirent de nettoyer le sang de Splody. Dante n'arrêtait pas de faire tomber son balai. Mais au bout de quelques minutes d'un travail silencieux, ils arrivèrent à leur fin et purent vider le seau dans l'évacuation qui se trouvait au centre du local d'entretien. Pendant que Dante s'occupait de rincer le matériel, Roman ouvrit la porte des fours pour qu'ils refroidissent. Désormais, plus rien n'indiquait que Splody et Getty avaient mis les pieds ici.
« Viens, on rentre »,
dit enfin Roman.
« Pas moi », répliqua Dante. « J'ai un truc à faire. »
Roman prit une longue inspiration.
« Non, Dante. Pas de drogue ce soir. Il faut qu'on rentre à la maison et qu'on y reste. Si tu croises un des potes de Torrent, tu risques de paniquer et de te mettre à parler. Tu crois vraiment que j'irai raconter ce qui s'est passé? Jamais je vous ferai une chose pareille à toi ou à Cassidy. Mais j'ai besoin de me défoncer. J'ai besoin de picoler. Et peut-être même que je vais me choper une bouteille de lean. Parce qu'il faut que j'efface ce qu'il y a dans ma tête. J'ai tué quelqu'un, Rome. Tu t'en rends compte de ça? Comment tu veux que je trouve le sommeil?
Dante respirait à toute vitesse.
J'ai pas dit que tu le ferais exprès, précisa Roman. Rentre avec moi. Je sais que papa cache une autre bouteille de whisky quelque part. Je veux pas que tu passes la soirée tout seul.
Et je ne tiens pas à la passer tout seul non plus, songea-t-il.
Désolé, frangin, fit Dante en secouant la tête. T'as qu'à prendre la Challenger. Je vais me commander un Uber. Il faut que je quitte cet endroit. Je déteste ce putain de crématorium. Je le déteste.
Il voulut s'éloigner, mais Roman le retint par le bras. Peine perdue. D'un coup sec et étonnamment puissant, Dante se dégagea, traversa le hall d'accueil et poussa la porte qui menait à l'extérieur. Roman resta planté au centre de la salle de crémation, le souffle court. Il ferma les yeux et écouta son cœur qui battait à toute allure, tout en passant la langue sur ses nouveaux implants.
« Tu n'es pas cette personne, » murmura-t-il. « Tu n'es pas cette personne. Tu vas les sortir de là, et ensuite tu vas rentrer à Atlanta et oublier tout ça. De toute façon, c'est plus chez toi ici. C'est juste l'endroit où vit ta famille. Tu n'es pas cette personne. Tu n'es pas cette personne. »
Il se répéta cette dernière phrase comme un mantra, tandis qu'il se dirigeait vers la voiture après avoir éteint toutes les lumières et verrouillé la porte d'entrée. Il chercha Dante du regard, mais celui-ci était déjà parti. On ne voyait que les lampadaires de la casse automobile au bout de la rue, les feux tricolores qui se balançaient au-dessus de l'intersection déserte, et quelques détritus qui achevaient leur danse au fond du caniveau. Il pensa à l'expression préférée de son père, et se fit la réflexion que non, le feu ne détruisait pas tout. Certaines choses avaient leur place au fond du caniveau.